partout au Québec. Partout au Québec. Au Québec. Tous les jours, Isabelle refait votre monde. Tous les jours, Isabelle s'intéresse à vous. Tous les jours, Isabelle veut savoir. Voici Isabelle.
Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On va vous tenir compagnie ce matin, comme d'habitude, du mieux qu'on peut. On va revenir sur des grands dossiers de l'actualité, bien sûr. On est toujours en émission spéciale entourant la COVID-19. C'est vraiment important de tout le monde être au courant des derniers points. Évidemment, il y a toute la question des masques qui devient de plus en plus critique. On va parler dans quelques minutes avec le docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, un habitué de notre émission qui va pouvoir répondre à toutes vos questions là-dessus, surtout vous rassurer. Vous, peut-être patient qui venez peut-être d'avoir une chirurgie reportée, c'est beaucoup, beaucoup d'inquiétude pour la plupart des gens là, qui doivent se faire soigner, les gens qui sont en traitement de chimiothérapie, par exemple. On va parler de tout ça donc dans quelques minutes, mais puisque je vous parle des masques, c'est vraiment aussi une inquiétude grandissante pour le personnel de la santé. Au moment où, justement, le premier ministre François Legault nous dit que on n'en aura peut-être pas pour bien longtemps. François Legault, hier, en conférence de presse d'ailleurs.
Hier, on a quelques commandes qui sont rentrées, là, puis aujourd'hui, si on regarde les différents équipements de protection individuelle, on en a actuellement pour une semaine. Donc, c'est amélioré par rapport à hier, puis on continue d'abord de travailler fort à essayer de confirmer des commandes.
Voilà. Et tout le problème, c'est les fameuses commandes. En une, dans l'actualité ce matin, on apprend qu'il y avait des masques fabriqués en Chine qui étaient expédiés et arrivés même à Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal, qui ont été expédiés. On ne sait pas trop comment ça se fait à Cincinnati, en Ohio. Il y a visiblement du trafic de masques qui se fait. Il y a de plus en plus d'entreprises qui faisaient toutes sortes d'affaires qui se disent, ben tiens, pourquoi pas aller faire des masques? Ça a l'air qu'il y a une pénurie, il y a peut-être moyen de faire une passe là. On va parler à Frédéric Proulx, qui est un entrepreneur québécois qu'on connaît bien et qui a déménagé au cours des derniers mois en Asie. Il travaillait entre autres dans le milieu bancaire et dans le milieu de la PME là-bas. Bonjour Frédéric.
Ça va super bien, vous?
Oui, ça va très bien. Frédéric, vous êtes justement dans l'industrie. Vous y étiez avant que ça devienne une pandémie. Hein? Vous étiez dans l'industrie du masque et vous aviez vu, parce que vous habitiez en Asie, vous aviez vu donc cette utilisation de plus en plus fréquente là-bas, entre autres en Chine, de masques. Donc, vous êtes là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Frédéric, sur ce qui se passe en ce moment dans l'industrie du masque sanitaire, entre autres du KN95?
C'est vraiment le Far West, on pourrait l'appeler comme ça. C'est vraiment des moments très très particuliers. Tout le monde travaille de la maison, on le voit, c'est complexe. Mais ce qui se passe vraiment, c'est en Chine, il y a des bonnes personnes comme des mauvaises personnes, comme dans tous les pays du monde. Maintenant, vraiment, le travail, c'est de sécuriser vraiment la production, les quantités de masques disponibles et tout ça. Et là, nous, ce qu'on a fait à peu près depuis un mois, c'est qu'on avait commencé à voir une certaine opportunité, mais tout en ayant une certaine décence, bien sûr, parce que il y a tellement de monde qui présentement s'amuse à dire qu'ils font des masques, qu'ils en produisent ou qu'ils en livrent à différents gouvernements. C'est vraiment, on sait où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie souvent, et ça, c'est un cas qu'on vit présentement. Nous, chez ASEPCO, Jean-François Morin, qui est le fondateur, un monsieur Grimby, un pharmacien de formation qui a travaillé longtemps avec les hôpitaux, qui a créé des protocoles médicaux. Cet homme-là, c'est un homme extraordinaire. Il a dit, moi, je vais le faire, je vais prendre un risque d'affaires, je vais avancer des sommes d'avance pour sécuriser la production. C'est ce qu'on a fait. On a grandi. On a des bons commandes avec le gouvernement du Québec. On en a avec d'autres places également. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point il a fallu des entrepreneurs du Québec s'entendre et se parler ensemble. Et il y en a d'autres, là, puis je ne veux pas nommer tout le monde parce que c'est vraiment un enjeu. C'est comme de l'or présentement. Je vous le dis, là, c'est vraiment un bien de consommation qui se fait voler sur les tarmacs d'aéroports où les camions sont détournés. Nous-mêmes, on s'est fait détourner des camions un matin de livraison. On se fait voler des commandes directement aux usines. Il y a des gens qui nous demandent plus d'argent. C'est vraiment particulier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la Chine a quand même fermé un peu les écoutés. Ils ont quand même dit, là, ça va faire. Ils ont mis des règles depuis le 1er avril qui sont très différentes. Mais moi, je suis juste très fier de dire que, comme Québécois, on a réussi avec le gouvernement du Québec également, M. Jean-François Lépine, qui fait un travail extraordinaire, qui est là-bas, qui est délégué du Québec à Shanghai,
ah ben oui,
à essayer de mettre tout le monde ensemble et à se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, là? C'est quoi l'urgence? Puis vous sachiez également que le Canada, c'est une chose, le Québec, c'est une autre aussi. Puis des fois, les Canadiens, les Québécois, des fois, on se parle, des fois, on s'accroche un peu. C'est une guerre aussi entre les provinces. Hein? C'est pas juste le Québec qui a besoin de masques. C'est l'Ontario, c'est les Maritimes, c'est les Prairies. Puis présentement, même entre nous, des fois, on se chicane un peu. Alors, tu sais, je suis très content de vous dire ce matin qu'avec d'autres entreprises du Québec, on a réussi à s'entendre, à dire, écoute, il faut absolument approvisionner le Québec. On est Québécois en premier, on est fiers de l'être. On veut s'assurer que le Québec ait des masques. Alors, moi, quand j'entends des trucs comme ce matin, pour Saint-Lambert, Saint-Ignatie, moi, ça me dégoûte. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste se payer une retraite avec ça. Puis moi, ça m'écœure. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'aider des gens. Moi, j'ai une femme infirmière de première ligne. J'en ai parlé, je sais pas combien de fois en ondes avec vous. Puis là, moi, de voir ça, qui n'ont pas accès à leur matériel, qui n'ont pas accès à rien. Puis les sociologues qui sont rendus maintenant des patients avec des positifs. Là, à un moment donné, faut les aider, ces gens-là. Là, ça dépasse juste l'argent. Puis comme entrepreneur, on a cette responsabilité-là. Puis je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est le Far West. Et c'est vraiment le bordel.
C'est le Far West et c'est le bordel parce qu'il y a des gens qui essayent de tirer profit de cette situation-là?
Ben oui, mais c'est comme on dit, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là. Il y a des contents des fois qui sont livrés, on rouvre les portes et là, il n'y a plus rien dedans, où il se passe des choses comme ça. C'est un peu normal en situation de crise. Vous avez la France là, qui est arrivée avec 1 milliard de masques tout d'un coup un matin, qui ont payé tout le monde, qui nous ont volé des masques à nous aussi. Il y a les Américains qui ont fait la même chose aux Français. Puis nous, au Québec, on est plus petits, là. Faut comprendre que c'est un enjeu planétaire. Ça va se calmer dans les prochaines semaines. Je pense que le Québec a fait les bonnes choses. On fait les bonnes choses. On a refusé de l'argent. Vous n'avez pas aidé comment? Juste pour dire non, on le fera pas parce qu'on veut assurer de l'approvisionnement pour le Québec. C'est des millions de dollars là, qu'on a refusés.
Qui aurait pu, donc, les masques, Frédéric Pau, des masques que vous auriez fait venir donc de Chine pour le Québec puis qu'on vous a offert là, des pondards pour aller où? Aux États-Unis?
Trois fois les coûts. Là. Oh, oui, on parle des 10-12 millions de dollars. Là. Facile. Là. En France, en Pologne. En Afrique également, et je vais vous dire, pour les politiciens, c'est pas facile non plus parce qu'on a délaissé notre industrie primaire de textile et tout de matériel depuis longtemps. Mmh. Et là, maintenant, on vit un peu les conséquences. Nous, on travaille à ramener une usine. On travaille fort. Il y a plein de gens qui travaillent très fort. Moi, je suis fier d'eux. J'étais en quarantaine 14 jours. Ça a fini aujourd'hui. Je viens de voir ma femme avec mon bébé d'un mois et demi, de 2 mois que j'ai pas vu depuis 1 mois et demi. C'est ça le travail. Tout le monde est comme là-dedans. Là.
Ah, vous sortez de quarantaine en plus. Fait que oui, là, on sent comme une grande joie de sortir la quarantaine. Ouais.
Je veux dire, voir ses enfants, ça fait du bien un peu. Là.
On entendait justement dans notre bulletin de nouvelles la compagnie Lamborghini, là, dont c'est pas le métier premier de faire des masques, qui veut se lancer là-dedans. Il y a toutes sortes de gens qui veulent faire une passe. Hein, vous le confirmez. Vous dites, c'est le Far West. C'est ça que vous voulez dire par là. C'est qu'il y a toutes sortes de gens qui soudainement voient une opportunité là-dedans. T'as une usine, tu la transformes. On en a vu là, faire soudainement du gel nettoyant alors qu'il faisait de l'alcool avant.
Mais tu sais, Isabelle, souvent, je me permets de te tutoyer, Isabelle, on se connaît, mais moi, ce qui me fascine, c'est, tu sais, en Chine, des fois, on les chicane un peu puis on les trouve un peu... Il y a un mouvement anti-asiatique aussi que j'entends, que j'aime pas beaucoup entendre ces jours-ci. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a des usines chinoises qui faisaient des pâtes de poulet il y a 10 jours, qui aujourd'hui font des masques et qui ont réussi à avoir les certifications nécessaires. Ça en est troublant, des fois. Mais et là, on fait passer des tests de conformité qui sont extraordinaires. Alors, tu sais, ils ont aussi un capital et une capacité de se revirer de bord qui est extraordinaire. Là, maintenant, c'est de s'assurer du pont aérien. On a d'autres problèmes, d'autres enjeux. Mais on les fight, là. Ça va. On va réussir. Mais je vais vous dire qu'on a un livre à écrire après là-dessus. Puis c'est pas juste les masques, là. Ça va être les blouses, les visières. Puis au Québec, ben, là, on a des urgents besoins. Puis je suis fier des entrepreneurs que j'entends, là. Moi, j'ai des partenaires de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ils font un travail extraordinaire qui se revient sur un dissous. C'est pas facile pour nos entrepreneurs.
Ben, merci. Pas. Merci, Frédéric. On aura l'occasion de vous reparler au cours des prochains jours. On va suivre cette situation, bien sûr, des masques. Frédéric Prou, donc, qui travaille chez Hanuman.com et avec une de ses entreprises, Accept Corp. Ils font des masques de protection qui font venir d'Asie pour le marché québécois. Mais vous l'avez entendu dire à quel point il y a du trafic, à quel point ça peut être tentant, là, pour des gens, d'aller dans cette industrie-là. De faire une passe et puis d'en profiter de cette situation-là. Et qui paye pour? Ben, en ce moment, c'est beaucoup le personnel médical. Ce sont beaucoup aussi les patients. Et c'est ça que je vais aborder avec vous pour les prochaines minutes. On est en compagnie du docteur François Marquis, il est chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, François.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va, ça va. Et vous, comment? On prend des nouvelles du docteur Marquis parce que vous autres, dans les hôpitaux, vous êtes, êtes-vous toujours de garde depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, François? Ça faisait, je pense, 13 ou 14 jours. Avez-vous pu dormir un peu depuis?
Oui. On a trouvé des mécanismes. On sait qu'on s'enligne sur un marathon, là, donc c'est pas un sprint. On se couvre. On est maintenant rendu à 3, c'est changé des nuits. Non, c'est fonctionnel, là, ça va. Ça fait plaisir d'entendre qu'il y a des gens qui se battent pour qu'on ait des masques et des équipements de protection.
Oui, mais en même temps, je vais vous entendre là-dessus, Dr. Marquis, Frédéric Prou, qui dit en même temps, c'est le Far West, là, puis il y a toutes sortes de monde qui essaient d'en profiter puis de faire la passe. Puis il était poli parce que j'avais parlé avant l'entrevue, puis je peux vous dire que ça le met en beau maudit de voir qu'il y en a qui en profitent. Vous, comme médecin, là, qui en demandez justement là, du soutien en équipement médical, comment vous voyez ça, ce genre de gens qui abusent?
Ben, moi, je pense que dans ce genre de situation-là où... On dit tout le temps qui vole un œuf vole un bœuf, mais ici, présentement, c'est vraiment le cas. Qui vole un masque peut peut-être voler une vie. Je pense qu'au point de vue légal, il devrait avoir des dispositions vraiment particulières dans le code criminel pour les gens qui volent des choses de première nécessité en cas de pandémie ou de situation de crise. Parce que c'est pas juste de dire on vole un petit objet dont la valeur individuelle est assez insignifiante. On vole quelque chose qui empêche des soins. Nous autres, à l'hôpital, je sais là qu'on est obligé de faire très attention avec les stocks parce qu'effectivement, il y a des boîtes qui disparaissent. Je parlais avec des gens de la pharmacie qui ont rapatrié les fameuses pilules de Plaquenil qui ont toutes été récupérées parce que le Plaquenil disparaissait sur les étages. À toutes les étapes de la chaîne de production, quand il y a une opportunité, il y a des gens pour en profiter. Et malheureusement, ça se rend même jusque dans les hôpitaux. Là, il y a des choses qui disparaissent dans les hôpitaux. Et ça, c'est un peu effrayant parce qu'on ne sait pas naturellement d'où ça part. Est-ce que c'est des systèmes organisés? Est-ce que c'est des gens juste dans l'impulsion du moment puis la crainte qu'ils se disent « il va manquer de masque, je vois une boîte, je pars avec ». J'entendais dans d'autres hôpitaux qu'il y avait distribué des boîtes à des infirmières en disant « voici ta ration de masque ». L'infirmière cligne des yeux, sa boîte s'est faite voler, elle n'a plus de masque pour le reste de la journée. Ça ne s'est pas passé dans mon hôpital, mais on l'a entendu là, dans d'autres hôpitaux. Là.
Incroyable. Le Plaquenil, ça fait quoi déjà? Vous parliez
des... c'est un des médicaments que les gens ont un espoir que ça va fonctionner.
C'est ça.
Je dois dire que je partage pas énormément cet espoir-là, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais c'est que les gens, en face à l'hypothèse d'un médicament miracle ou potentiellement miracle, préfèrent en stocker. Et ça, malheureusement, là, ça aide absolument personne. Surtout que c'est un médicament qui, donné aux mauvaises personnes, peut être extrêmement dangereux. Là. C'est pas exactement juste de l'acétaminophène, cette affaire-là.
Oui, donc vous dites, puis j'aime bien la façon dont vous le dites, docteur Marquis, qui vole un masque vole une vie. Donc vous dites, il faut absolument des mesures sévères quand on voit qu'il y a quelqu'un qui abuse d'une situation comme celle-là.
Oui, parce que au-delà du fait qu'un vol est un vol, ça, c'est un vol qui met en danger la population. C'est comme les gens qui se mettaient à voler des plaques qui couvrent des égouts, puis il y a eu des accidents d'auto, ou si les gens se mettaient à voler les freins de voiture, je veux dire, ça n'a pas de sens. Là, c'est des petits objets, mais qui sont d'une grande sécurité et qui sont importants pour la sécurité de tout le monde. Et je pense que la valeur pécuniaire seule du masque ne devrait pas être pris en compte là-dedans. C'est le symbole, c'est l'impact que ça peut avoir. Et je pense que si nos amis, là, au niveau légal, puis moi, je ne suis pas le législateur, mais ça serait une belle occasion de renforcer le message que tout le monde doit travailler ensemble et qu'on, comme société, on ne tolérera pas les opportunistes qui vont en profiter pour se voler une coupe de caisse de masques. Et tu sais, on a vu ça aussi, là, c'est le même principe que les gens qui sont allés vider des grandes surfaces pour avoir des solutions antiseptiques puis les revendaient à prix d'or en ligne. C'est, dans ma tête, c'est toute la même affaire.
Et moi, ça m'écœure du monde de même. Là. Il n'y a pas
c'est
de
vraiment
monde.
Écœurant.
Ah,
parce
ouais.
que c'est vraiment le non-respect le plus total de son prochain et de se dire que... Et là, on parle de vie humaine. Là. C'est vraiment de dire, moi, pour m'en mettre dans les poches, hein, je suis prête à ce qu'il y ait des gens qui meurent. Il faut être rendu à quelque part dans son raisonnement ou avoir aucune forme de raisonnement. Là, on peut choisir ça.
Non, mais il y en a qui n'ont pas de valeur, François.
Oui,
il y a des gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de valeur. C'est quoi tes valeurs? Tu en profites d'une situation. Vous vous souvenez de ce gars qui était supposément un investisseur en pharmaceutique, qui a fait de la prison d'ailleurs aux États-Unis il y a plusieurs années. Il chargeait pour un médicament, c'était plus de 1 000 $ le comprimé, puis c'était vraiment de la surenchère sur un traitement qui sauvait des vies. Puis heureusement, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis qui a fait comprendre que ça, tu peux pas faire ça. Mais il y en a combien pour ce gars-là qui s'est fait arrêter, il y en a combien qui le font sans qu'on le sache? Et je trouve que l'exemple des masques est probant. C'est ça. Là. Frédéric Pou dit qu'il s'est fait voler en Chine sur le tarmac à l'aéroport de Shanghai. Ah oui. Il s'est fait voler des cargaisons de masques qu'il avait commandées pour le Québec. Mais regardez.
Mais moi, ce qui me trouble encore plus, c'était les masques qui étaient sur le territoire exact. Du Québec qui ont disparu.
C'est ça, j'allais le dire. Ça, à Saint-Lambert, t'arrives à Saint-Lambert, même le gars de la compagnie, là, Fanzhou, qui est le patron de l'entreprise Smart Me, là, qui amenait ces masques-là, il sait pas ce qui s'est passé. On semble comprendre que, je sais pas si il y a DHL qui était le transporteur. Mm-hmm. Qui a pris ces masques-là de Saint-Lambert pour les envoyer aux États-Unis? Qui? Je peux pas croire qu'on n'est pas capable de répondre à cette question.
Oui, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui vont devoir faire le travail, là, mais tu sais, c'est plate, mais tu sais, ce qui se passe sur un autre territoire, c'est un peu... Le Québec n'a pas vraiment... Tu sais, c'est un vol, là, mais ce qui se passe sur notre propre territoire, je pense que là... Et il faut se poser la question, puis il faut vraiment aller investiguer, puis il faut pas que ça puisse se reproduire, là.
Exact. Docteur François Marquis, reste avec nous, il est assez aimable pour rester jusqu'à 11 heures. On va prendre vos commentaires, bien sûr, parce que je sais que vous êtes très nombreux aussi à être extrêmement préoccupés par ce manque d'équipement médical. Les masques qui font défaut, on n'a pas assez, des gants. Et quand c'est rendu que même Diane Francoeur, puis on aura l'occasion de entendre un extrait de l'entrevue que Diane Francoeur de la Fédération des médecins spécialistes a donné ce matin à mon collègue Paul Arcand. Vous allez voir que moi, quand j'ai entendu ça ce matin, là, il y avait comme un ton un peu plus nerveux que d'habitude dans la voix de Mme Francoeur qui s'inquiète visiblement de la suite des choses. Et c'est toute la question des chirurgies reportées, des gens qui sont malades, qui ont besoin de soins autres que la COVID-19. Et c'est ça la question que je vous pose ce matin. Est-ce que vous craignez de ne pas être capable de vous faire soigner? Vous savez ce qu'on avait dit il y a quelque temps? Éventuellement, il y a des gens là qui vont vraiment être malades puis qui vont peut-être payer de leur santé à cause de ce virus. Et pendant ce temps-là, il y a du monde qui comprend pas, qui sont encore au parc, qui organisent des fiançailles sur leur balcon, qui vont à leur chalet, qui vont magasiner. Ah ouais, un petit verre de vino, party. Hii, qu'on a de la misère avec certaines personnes. Dans la grande région de Montréal, on prend vos commentaires au 514-790-9850. Et puisqu'on est écouté partout au Québec, j'en profite pour saluer toutes les régions qui nous écoutent. Vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde.
Au réseau Cogeco, vous avez des opinions. Isabelle veut les entendre. Voici Isabelle.
Oui, alors on parle du vol de masques confirmé ce matin par Frédéric Prou, qui est un entrepreneur qui vit en Asie, un entrepreneur québécois qui de la compagnie Asep Corp et de Anewman également. Ce sont deux entreprises dont il est copropriétaire et il est dans l'industrie du masque de protection. Ça tombe bien, ça fait déjà quelques mois qu'il avait vu venir la chose puisqu'il est basé en Asie. Et là, ben, évidemment, il achète de la Chine, il fait venir ça au Québec et il confirme en entrevue tout à l'heure qu'il se faisait même voler sur le tarmac de l'aéroport de Shanghai des sommes importantes, des nombres de masques importants. Puis il dit même ici, c'est difficile de résister. Il y a plusieurs personnes qui se font offrir des ponts d'or. Il dit lui-même, il s'en est fait offrir, mais il résiste. Puis il dit, moi, c'est ce qui compte, c'est de évidemment fournir les Québécois, mais même entre les provinces. Puis on l'a vu cette semaine, vous avez vu François Legault qui remerciait son ami Doug Ford de l'Ontario d'avoir donné des masques de l'Ontario. Et que ça n'a pas été long que Doug Ford a dit non, on n'a rien donné aux Québécois. Probablement que Doug Ford s'était fait expliquer que tu peux pas dire ça, mon ami, parce que là, il y a tous tes citoyens ontariens qui vont dire comment ça tu donnes du stock au Québec. Vous voyez à quel point là c'est devenu chacun pour soi. Beaucoup de gens me disent, mon Dieu, on est tellement pas surpris d'entendre dire que c'est le Far West puis qu'il y a du trafic de masques. C'est quand même pas joli, joli. On a Alain Corbeil qui est quelqu'un qu'on a de temps en temps à l'émission, qui est un technicien en architecture, qui fait beaucoup de désinfection dans les édifices, n'est-ce pas, Alain? Bonjour.
Bonjour.
Bon et là, matin. Vous nous appelez parce que vous dites, moi, j'en ai plein de masques NK95, je suis prêt à les donner, c'est bien ça?
Oui, moi, j'avais prévu des commandes d'avance et je les ai reçues. Mais là, comme je suis arrêté parce qu'on était tout le monde en confinement, j'ai comme peut-être un 110 masques que je pourrais donner, mais je sais même pas à qui les donner.
Ben, peut-être je connais quelqu'un qui est pas loin, Dr. François Marquis. vous les prendriez, je pense, hein, vous autres, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont?
Oui, la chose qu'il faut penser avec les masques de construction, c'est qu'il y a plusieurs. Les N95 sont très différents des masques de procédure standard. Il y a vraiment l'élément d'étanchéité qu'on doit assurer, parce que là, on ne parle pas d'empêcher de passer des petites particules de poussière ou de saleté, mais bien des virus. Et donc, nous, on a tout un catalogue de masques pour lequel nos employés ont été, on appelle ça un fit test, s'assurer que c'est étanche. Hein, c'est comme de vérifier est-ce que les souliers nous font.
Ouais.
Et ce qui fait que moi, par exemple, il y a 5 sortes de masques que je peux mettre, mais il y en a 2 que je ne peux pas mettre. Un autre travailleur, c'est différent. Donc, quand les gens nous offrent des masques, c'est certain que c'est à la base, la réponse devrait être oui. En se rappelant qu'il faut que je sois capable d'assurer que la personne qui va avoir ce masque-là, le masque va lui faire. Et quand je reçois des offres pour 20 masques, 100 masques,
ouais.
Le problème, c'est que je peux pas me permettre des fit testés aux gens. Et je peux pas non plus leur donner un équipement qui risque de leur donner une illusion de sécurité.
Ouais, je comprends.
Par contre, quelqu'un peut me dire, je peux t'avoir 3 palettes de ces masques-là. Là, ça va valoir la peine de fit tester. Ne pas oublier que juste mon hôpital, juste mon pavillon principal, on parle d'au-dessus de 2000 employés. Fait que c'est, si je pense juste aux soins intensifs, c'est 80, 100, 120 infirmières et autres membres de personnel. Donc, il faut que je m'assure que si je dis à mon personnel, voici des masques, que ces masques-là vont leur offrir la protection, parce que je suis pas là non plus pour leur offrir des sacs gonflables qui vont pas ouvrir, là.
Ben non, c'est sûr. Alain, est-ce que c'est des N95 que vous avez ou soit un autre type de masque?
Non, c'est des N95, parce que moi, j'utilise ça parce que comme je suis expert en moisissure,
ouais.
Je peux pas me permettre d'aller en bas de ça.
Okay.
Mais c'est ça.
Moi, mais je dis pas que c'est pas des bons masques, c'est des N95, mais il faut, comme je vous dis, qu'ils fassent partie des catalogues qui ont été fit testés pour les travailleurs de la santé.
Okay.
Et avec le numéro de masque, là, on pourrait se le dire hors onde, là, c'est comme mon idée là-dedans, c'est juste de souligner le fait que
c'est pas si simple que ça, puis il y a beaucoup de spécificités.
Les N95, ouais. c'est pas du prêt-à-porter, là.
Ouais.
C'est faut que ça soit fité pour chaque personne.
Voilà. Donc, dans les N95, il y a plusieurs types, et puis c'est ça qu'il faut. Il faut s'assurer que quand on en porte un, il nous convienne à notre visage, à notre
physionomie.
Exactement.
C'est voilà. Vraiment ça.
Bon, ben, en tout cas, Alain, c'est sûr qu'on va prendre vos coordonnées, puis on va vous mettre en lien avec le docteur Marquis. Puis si ça ne fit pas pour son unité de soins intensifs, c'est sûr qu'il y aura d'autres façons de. Vous en avez combien, Alain Corbeil?
Bon, j'en ai peut-être une centaine et plus là, que c'est tout emballé, c'est vraiment tout...
Mais là, c'est gentil que vous les offriez gratuitement comme ça, parce que finalement, il y a bien des gens qui pourraient dire, profites-en mon Alain, vends-moi ça 3, 4, 10 fois le prix.
Ben non, justement, moi je trouve que, puis même je lance un appel à tous les autres entrepreneurs ou inspecteurs ou les gens dans le domaine,
ouais.
Puis si vous en avez en réserve, donnez les dons, c'est le temps.
Ouais.
Et puis, tu sais, de toute façon, on ne peut pas travailler. Moi, mon ordre professionnel m'a arrêté.
Ah oui, c'est ça.
J'ai une raison. Fait que j'aime autant que ça profite aux gens de la santé que ça
mais
donne.
Vous êtes bien généreux, Alain. Merci beaucoup. Merci. On a vos coordonnées, on les passera. On a Gilles, justement, qui travaille dans la construction, je pense, Gilles, hein, vous aussi?
Oui, justement, je travaille dans la construction, puis je travaille comme mécanicien industriel aussi.
Ouais.
Puis pour dire dans le pavage, mais il y a une idée que justement, j'ai entendu la moitié d'intervenants, là, la moitié de son message. Justement, il y a des compagnies, il y a plein de compagnies qui sont en arrêt, qui ont des masques N95. Il s'agirait de vérifier, voir si c'est les bons. Mais n'empêche, je pourrais faire un don. En échange, les policiers peuvent aller les chercher, mettons, aux entreprises, puis en échange, prennent le nom, puis un moment donné, dessus un site du radio, fait une publicité comme quoi que la compagnie a fait un don de masques dans leur région.
Ben
ça
serait
une belle échange, je pense, en même temps, parce que, en tout cas, quelques compagnies que je connais, que ce soit, mettons, des dépasseurs, ben c'est sûr qu'ils ont des masques en storage.
Ouais. Mm-hmm.
Ils pourraient donner la moitié ou le trois quarts de deux masques. De toute façon, ils ne travaillent pas.
Exactement. Donc, exactement. Mais je pense qu'on pointe. C'est bien en même temps de savoir qu'il y a peut-être 10 masques là, puis 50 masques là, puis. Mais en même temps, on comprend que ce dont on a besoin, là, puis je reprends vos mots, docteur Marquis, c'est que c'est des palettes, là. Ça en prend, là. Vous nous disiez, vous, là, 2000 personnes qui travaillent en santé dans votre département. actuellement dans votre édifice. 120, c'est ça, à peu près, en soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont, c'est ça, François?
Oui, puis là, il faut comprendre en plus qu'on récupère des gens de d'autres secteurs. Fait ouais. Honnêtement, j'ai même pas le chiffre exact.
Ouais. Et vous, là, vous êtes dans les prioritaires, hein, Dr Marquis, là, parce qu'en soins intensifs, j'espère que c'est tout le monde qui a besoin d'un masque, là, ou à peu près, non?
Oui, oui, oui. Et nous, là, c'est vraiment en termes d'utilisation intelligente des ressources, on ne peut pas faire mieux. Là, il n'y a pas un masque qui se gaspille dans notre unité. C'est drôle, hein, parce que là, les gens paniquent, mais c'est la même chose pour toutes les ressources naturelles. Hein, on les utilise jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis là, on pogne la switch à panique. C'est la même chose qui est arrivée. On avait une ressource naturelle qui s'appelait le masque, et là, il n'y en a plus. Ouais. Et on va faire les mêmes choses que ce qu'on fait d'habitude. Là, on commence à se dire, ouais, il faudrait rationaliser. Et là, après ça, on va commencer à penser à la réutilisation et au recyclage. et à ce niveau-là, parce que les gens disent, OK, il faut trouver des masques, mais on a ceux qu'on a là. Et présentement, il y a des énergies très considérables qui sont déployées à regarder ces masques-là à usage unique. Sont-ils vraiment à usage unique? Est-ce qu'il y a moyen de les stériliser? Et les grosses compagnies qui font les stérilisateurs pour les salles d'opération sont en train de travailler sur des protocoles pour qu'on puisse ramasser ces masques-là. Naturellement, ceux qui sont souillés de façon évidente sont mis à la poubelle. Ouais. Mais ceux qui ont juste servi de protection, présentement, on est tous en train de les garder dans des gros sacs en attendant là, que ces systèmes-là soient fonctionnels. Il y a des gens qui travaillent très fort là-dessus. Donc, on n'est pas juste là à attendre nos approvisionnements. C'est certain qu'on les veut, nos approvisionnements, là, sont importants pour nous, mais on travaille déjà au fameux réutilisation et recyclage. Hein, c'est un peu l'histoire de l'humanité qui est en train de se refaire en quelques semaines là, sur le gaspillage des ressources. Puis au début de la crise, il y avait énormément de gaspillage de masques, et là, au fur et à mesure que ça devient rare, les gens prennent conscience. C'est l'histoire du sac en plastique qu'on vit, mais à l'accéléré.
Voilà, exactement. On s'arrête ici. On vient tout de suite après la pause avec vos commentaires. 514-790-9850 dans la grande région de Montréal et à l'extérieur. Vous pouvez nous joindre facilement. Vous faites le 1-866-790-9850.
Au réseau Cogeco. Vous avez des opinions. Isabelle veut les entendre. Voici Isabelle.
Il y a bien des gens qui ont des masques soudainement du N95. J'ai plein de gens là, qui m'écrivent. Alain me dit, moi je cherche un contact au gouvernement du Québec afin de proposer masques de procédure et gants. Nous sommes une entreprise d'envergure nationale dans le domaine dentaire. Nous avons ces produits en stock ici. Nous aimerions faire une contribution à l'effort pour vaincre la pandémie. Alain, envoyez-moi vos coordonnées, puis ça va nous faire plaisir. On va essayer de trouver un contact au gouvernement pour que ça se rende, des gens qui veulent faire don de masques. Il y a Paul qui m'écrit, j'ai écrit à une personne du ministère, ça faudrait me dire qui, là, pour des masques chirurgicaux. Je peux en avoir 50 000 à 100 000 par semaine de mon fournisseur, mais le gouvernement tarde à me rappeler pour me dire si oui ou non ils en veulent. Le temps presse, mais me semble qu'il y a du monde qui se traîne les pieds au fédéral. Il y a Diana qui travaille dans un centre hospitalier à Montréal, au bloc opératoire, me dit-elle. Elle dit, en tout cas, si le docteur Marquis les prend pas, les masques N95 d'Alain, elle dit, moi, je les prendrais bien. Docteur Marquis? Voyez-vous ça, qu'il y a donc bien du masque en circulation, malgré tout, au Québec? C'est peut-être juste une question d'organisation aussi.
Bien. J'aimerais ça que ça soit absolument vrai, puis qu'on découvre des petites cachettes qu'on avait oubliées où il y avait des masques, et tant mieux. Je pense que si ces gens-là ont des offres effectivement comme ça sérieuses, on va certainement tout faire pour les écouter. Là, je veux dire, moi, je ne suis qu'oreille, et je vous ai laissé là, des coordonnées justement à ce sujet, comme ça, plutôt là, que de chercher à prober au gouvernement, parce que j'imagine aussi qu'ils doivent recevoir un paquet d'appels de gens pas sérieux ou d'opportunistes. Je pense que ne serait-ce que sur le volume d'appels, la bonne personne généreuse qui a vraiment l'opportunité de donner un coup de main, peut-être qu'elle est juste noyée dans les appels. C'est que là, moi, je vous ai laissé des coordonnées pour.
Voilà.
Pour
et on va passer l'info, bien sûr, tout à fait. On a Shafia, justement, qui travaille à la cafétéria de votre hôpital, docteur Marquis. Bonjour, Shafia.
Oui, bonjour à vous deux. Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui, ça va bien. Écoutez, docteur, je vais pas vous retarder beaucoup. Fait que moi, je travaille dans la cuisine, dans le service alimentaire. Ça fait un bout, le boss a dit, t'as pas raison à porter le masque. Est-ce que c'est pour l'hygiène ou pour, parce qu'il y a une madame, des infections et tout ça, là. Elle nous a fait comme une entrevue et tout. Elle a dit, c'est pas raison de porter le masque. Mais là, il y a des gens qui montent en haut pour distribuer des plateaux et tout.
Mm-hmm.
Dès qu'ils arrivent là-bas, il faut qu'ils portent un masque. Après ça, ces gens-là, ils descendent en bas. Fait que c'est sûrement avec cette corona-là, c'est sûr.
Vous avez une inquiétude. Et ça, à peu près chaque jour, cette semaine, Shafia, il y a des gens comme ça qui travaillent dans les cafétérias des hôpitaux ou des CHSLD qui ont énormément d'inquiétudes par rapport au plateau repas, au fameux cabaret là, qui se passe. Puis vous, vous dites pourquoi je porte pas de masque alors que quand j'arrive ces étages... je vais demander au docteur François Marquis s'il a une réponse à ça, François.
Oui, alors le plateau, même s'il était contaminé avec du COVID, là, le problème c'est que le virus est passif, il peut pas sauter sur la personne, on peut pas l'aspirer.
Mm-hmm.
Bon, comme je sais qu'il y a personne dans la cafétéria qui mange le restant des assiettes qui revient de l'étage, ça serait problématique. Mais dans la mesure où s'ils ont des gants, c'est ça qui est important. Et moi, quand je me promène dans l'hôpital, ce que je fais le plus souvent, c'est de me laver les mains. Je me promène dans les corridors, je vais dans les zones chaudes, je mets mes masques, je nettoie, et quand je sors, je me promène sans masque. Et le virus, même si je touche une poignée de porte qui est pleine de virus, je me lave les mains. Donc, quand il n'y a pas quelqu'un pour nous éternuer au visage, la contagion se fait par les mains. Donc, en portant des gants que vous portez de toute façon, puis en vous lavant les mains, parce que de toute façon, vous êtes tout le temps en train de vous laver les mains, vous êtes en sécurité. Le masque n'est pas nécessaire, comme il n'est pas nécessaire pour moi quand je me déplace du point A au point B, que je change d'unité, que je ne suis pas en contact direct avec les patients.
Donc, vous, ça ne vous inquiète pas, ça, Dr Marquis, là, pour rassurer les travailleurs des cafétérias, des divers endroits là, où il y a des...
Non, parce que moi non plus, je ne porte pas un masque quand ce n'est pas absolument nécessaire.
D'accord.
Je serais quand même le premier à vouloir me protéger si je savais que c'était dangereux. Là.
Donc, comme docteur, Horacio Arruda, vous dites, Dr Marquis, avant tout, c'est le lavage de main, là, bien avant le port du masque. Vous êtes d'accord avec ça, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Ouais. OK. Ben voilà pour votre réponse, Shafia. Puis là, je sais pas, on a Dominique qui m'écrit. Ils ont appelé Santé Québec dans leur entreprise pour leur offrir nos masques et gants la semaine dernière. Il dit, j'ai reçu un appel hier pour me dire que la compagnie Robert Transport passerait ce matin pour ramasquer nos masques et nos gants. Il dit, comme prévu, ils sont passés. Ils ont pris l'équipement, 300 masques N95, 200 paires de gants. Donc, Robert Transport fait une ronde de lait ce matin pour aller récupérer des équipements un peu partout dans diverses compagnies. Là, je sais pas, tout va bien aller, nous dit Dominique. Mais d'abord, merci de faire don de certaines choses. Si on vous disait d'entrée de jeu ce matin, c'était confirmé par un entrepreneur québécois qui fait des affaires en Asie puis qui disait qu'il se faisait voler du stock de masques qu'il vend. Il est dans l'entreprise, dans l'industrie du masque. Il essaye d'en faire livrer au Québec. Là, on voit là, c'est le Far West qui disait ce matin Frédéric Proulx. Mais il y a quand même des gens qui en ont des masques puis qui sont prêts à en donner. Je trouve que ça, il faut saluer ça. C'est un effort collectif, gang. Là. On a Cécile qui est avec nous. Bonjour, Cécile.
Oui, bonjour, Mme Maréchal. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais j'ai eu une idée, ça fait déjà quelques jours que j'y pense. Pourquoi
allez-y.
Ne pas demander à Bombardier, qui a l'entreprise la plus extraordinaire au Canada, qui pourrait probablement fabriquer des ventilateurs, qui pourrait faire beaucoup de choses pour le médical, même des masques et tout ça. Ils ont tout l'outillerie, ils ont toute l'expertise voulue pour faire ça. Puis même, on parle déjà de faire peut-être des mises à pied. Pourquoi pas transformer un peu une partie de leur usine et puis en fabriquer des choses pour le Canada puis pour peut-être en fournir d'autres?
Mais c'est une très bonne idée, Cécile. Puis d'ailleurs, le président américain l'a aussi demandé aux grandes entreprises. Je pense que GM, entre autres, s'est fait dire, si vous pouvez nous aider, ça serait bienvenu. Ce matin, je lisais que le fabricant de simulateurs de vol CAE, grande entreprise qui est chez nous aussi, leurs ingénieurs ont conçu un respirateur artificiel qu'ils espèrent pouvoir faire homologuer rapidement pour venir en aide aux hôpitaux. Ils ont fait ça en même pas 10-11 jours, avec une douzaine d'employés de CAE Santé. Il y a une photo d'eux dans le Journal de Montréal ce matin, puis ils ont l'air bien fiers de leur affaire. Mais c'est ça qu'il faut, là. Oui, si tu peux, si tu as une usine, puis que tu penses peut-être aider, ben pourquoi pas. Jean-Marc, vous aussi, vous abondez dans ce sens-là. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, j'abonde, oui, dans ce sens-là. J'ai un point que je voudrais amener. J'ai travaillé déjà pour des compagnies qui fabriquaient des pots de plastique et tout ça. Je lancerai un appel à ces compagnies-là à fabriquer des visières.
Ben oui, effectivement, il y en a qui peuvent tout à fait le faire. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Si vous avez la capacité industrielle et que ça modifie pas trop votre processus, ben pourquoi pas le faire? Je pense qu'il y en a là, qui doivent réfléchir à ça. Puis pas dans le but de faire une passe, s'il vous plaît, en ce moment, mais bien dans le but d'aider son prochain. Hein. Je pense, Dr. Marquis, c'est ça qu'il faut dire. Après la pause, Dr. Marquis, j'ai aussi quelques questions d'hygiène, des questions de santé, sécurité, bien sûr. Des gens aussi, dont quelqu'un là, qui me dit que on parle de traitement de chimio, puis aussi, on parlait tout à l'heure du Plaquenil, certains qui sont sous traitement de Plaquenil depuis un bon moment. Là, les gens qui ont de l'arthrite rhumatoïde viennent de se faire dire, ben là, finalement, on va garder ce traitement-là, vous n'en aurez pas. Il y a quelqu'un qui m'écrit, je peux vous dire, là, son courriel est arrache-cœur. Alors, on va parler de tout ça avec le Dr. Marquis après la pause.
Au réseau Cogeco, vous avez des opinions. Isabelle veut les entendre. Voici Isabelle.
On n'a pas de masque, là. Là, il n'y a plus rien qui marche. Là. Toutes ces belles hypothèses-là de comment est-ce qu'on peut prendre des chemins déviés pour damer le pion au virus, ils viennent de tomber parce qu'on n'a pas d'équipement. Ça, honnêtement, là, ça nous a vraiment renversé parce qu'on pensait jamais que les hôpitaux étaient aussi vides, mais on aurait dû savoir ça avant. Là.
Voilà.
Si on avait su qu'on était si dans le trouble, on aurait arrêté les chirurgies avant ça. Là.
C'était Diane Francoeur ce matin, extrait d'une entrevue qu'elle a accordée à mon collègue Paul Arcand. Je vous avoue, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, Dr. François Marquis, là, on sent chez Diane Francoeur une certaine inquiétude. Est-ce que, par rapport à ce qu'elle dit, êtes-vous d'accord avec son évaluation? Puis au fait que si on avait su, là, on se serait peut-être organisé autrement, puis on aurait peut-être débouqué, entre guillemets, certaines chirurgies.
J'ai malheureusement pas pu écouter son entrevue parce que j'étais aux soins intensifs en train
oui,
de
bien sûr. Oui.
Mais le fait est que je pense que pour une pandémie ou quelque chose comme ça, on n'aurait jamais été assez prêt. Je pense qu'il y a cet élément-là. À un moment donné, il faut déculpabiliser puis de pas trop regarder le passé. Je pense que le Québec s'est pris quand même relativement d'avance. C'est certain que le problème, quand on a besoin de demander à un réseau de prendre en charge toute cette volumétrie-là de plus, il y a plein de choses qu'on n'avait jamais essayées avant, qu'on découvre, qu'on travaille. Les gens sont ingénieux, ils trouvent des choses. C'est certain qu'il y a des impacts négatifs. C'est certain qu'il y a des choses qu'on aurait peut-être, qu'on ferait différemment. Mais tu sais, honnêtement, je pense que tout le monde travaille très, très fort et que pour les patients qui ont besoin de se faire soigner maintenant, moi, je vous donne un exemple. J'ai un patient hier qui avait besoin d'une chirurgie urgente pour son aorte.
Oui.
Ben, il l'a eu. Puis ça a très bien été. Puis pour ce monsieur-là, COVID-19, pas COVID-19, il a eu le traitement qu'il avait besoin. Et les gens présentement sur le terrain ne font que ça, s'assurer qu'il n'y a pas de dommages collatéraux de victimes du COVID qui n'ont jamais été infectées, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. J'ai Patrice qui m'écrit, il dit ça fait 5 ans qu'il attend pour une opération au dos. Bon, c'est un dossier compliqué de ce que je comprends, je passe les détails, mais bref, il dit « J'étais sur le point de me faire opérer finalement, et là est arrivé ce maudit virus, je le cite. Il dit « Là, il va m'arriver quoi maintenant? Je suis plus capable d'endurer la douleur, c'est insupportable. Il y a des injections de cortisone, mais ça fonctionne presque plus. » Il dit là, je fais quoi là? Est-ce que je viens de passer mon tour à nouveau? Vous pouvez le rassurer, Patrice, ben, docteur?
Faut pas voir qu'il a passé son tour, parce que passer son tour, ça veut dire qu'on recule en arrière d'une liste d'attente, mm-hmm. alors que pour l'instant, tout le monde garde sa place sur la liste.
Tout le monde est en attente. Est-ce que autant où le Québec est sur pause, comme le dit il y a quelques semaines François Legault, est-ce qu'on peut dire les gens qui sont en attente de chirurgie, vous aussi, on vous a mis sur pause?
Bien, en fait, tout le monde a été mis sur pause. Et ce qui n'est pas sur pause, et ça, il faut le rétablir encore parce que les gens s'inquiètent, c'est normal de s'inquiéter, tout ce qui est urgent est fait. Donc, tout ce qui ne peut pas attendre est fait. Les gens qui ont besoin de chirurgie oncologique, dont le cancer nécessite une chirurgie urgente, c'est fait. Moi, mon bloc opératoire chez moi fonctionne au ralenti, mais au ralenti, ça ne veut pas dire arrêter. C'est qu'on se pose la question pour chaque patient, est-ce que cette chirurgie-là est absolument nécessaire? Et ce n'est pas juste pour protéger les ressources pour les patients COVID, c'est aussi pour protéger le patient. Parce qu'imaginez quelqu'un là qui aurait besoin de quelque chose de bénin, pour dire quelque chose d'une vésicule biliaire. Ouais. On l'amène, on y trouve un spot, on le faufile, il attrape le COVID, il se ramasse à tirer la courte paille, il se ramasse intubé aux soins intensifs pour une opération absolument bénigne. Et comment je peux justifier ça au patient après de dire, ben, ou à sa famille, monsieur ou madame est décédé d'une infection pour une opération qu'on aurait pu pour repousser. Et là, je comprends que il y a le drame individuel d'être en attente pour une chirurgie, et peut-être que cette chirurgie-là va être jugée tellement importante à cause du contrôle de la douleur qu'elle sera faite. Je ne sais pas, ça, c'est un cas individuel. Mais il faut balancer aussi le risque que si je rentre une chirurgie, peu importe la sorte de chirurgie, j'expose mon patient à un certain risque que j'essaie de minimiser. Et la meilleure façon pour l'instant de minimiser le risque, c'est de ne pas faire ces chirurgies-là qui peuvent attendre.
Mais les cancéreux, parce que pour les traitements, les gens qui ont de la chimio et tout ça, ça les inquiète beaucoup, ou qui ont des opérations, parce que souvent, il faut enlever des tumeurs. Puis ensuite, il y a la chimio, mais pour ceux qui devaient se faire opérer là, pour une tumeur, ceux-là sont très inquiets.
C'est ça. Donc, pour les tumeurs, le problème, c'est que le cancer, c'est pas une maladie, c'est 1000 maladies différentes. Et je comprends que quand on vit avec un cancer puis qu'on est supposé se le faire enlever, chaque journée qu'on atteint est une journée de trop.
Ouais.
La réalité, c'est qu'il y a des tumeurs qui peuvent attendre et il y en a qui ne peuvent pas attendre. Mm. Et les oncologues, avec les équipes chirurgicales, ce qu'on appelle les tumor boards, tout ce qu'ils font, c'est de replacer les gens. Et moi encore, j'en ai eu, cette semaine, j'ai eu deux patients qui avaient des tumeurs qui ne pouvaient pas attendre,
ouais,
qui ont été opérés.
OK. On a Daniel, justement. Je pense, Daniel, c'est le cas de votre femme. Votre femme a le cancer et vous vous inquiétez.
Oui, c'est ça. Elle a un cancer en dessous du pied, un sarcome qui est très, 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 très rare. Il a été censé couper le pied, mais à fin de compte, ils ont fait de la radiothérapie pendant 5 semaines. Le 9, on voit l'oncologue, puis le 14 ou le 21 avril, ils l'opéraient. Mais est-ce qu'ils vont l'opérer? Parce que là, c'est une chirurgienne plasticienne qui va l'opérer parce qu'ils vont gratter 2 centimètres en dessous, puis il faut qu'il refasse son pied au
complet. Mais là, vous n'avez pas eu d'appel disant que c'était reporté pour l'instant. Là. Pour l'instant, votre rendez-vous demeure.
Le rendez-vous avec l'oncologue, pour l'instant, il demeure, mais ce qu'on se demande, c'est qu'ils vont-tu leur tarder. C'est quand même un cancer agressif.
Oui, merci Daniel, Dr. Marquis.
C'est que là, ici, il y a vraiment plusieurs étapes. Hein. La première chose qu'il a bien verbalisée, c'est que les rendez-vous avec les oncologues sont maintenus et la procédure, pour l'instant, et suit son cours. Il va avoir évaluation par l'oncologue et en fonction de la réponse à la radiothérapie qu'elle a eue, la date d'opération va être considérée. Pour l'instant, on l'a bien dit, il n'y a pas eu d'annulation, les choses suivent leur cours et présentement, pour le système de santé, 2 semaines, là, finalement le 14 avril ou le 15 avril, c'est une éternité pour nous autres. Dans le sens où moi, mes programmes opératoires se revisite au jour le jour. Donc, il va avoir le questionnement, on va regarder l'urgence de cette opération-là, et si c'est une opération qui ne peut pas attendre, bien, elle sera faite. Maintenant, peut-être qu'elle serait reportée de 3 jours pour faciliter d'autres choses, puis je pense pas que 3 jours va faire une différence.
Mais c'est important, docteur Marquis, vous le faites très bien, là, vous venez de rassurer pas mal de monde qui nous écoute, c'est que si vous avez un cas urgent, c'est pas vrai de penser qu'au Québec, on se fera pas soigner si on a le cancer, c'est ça que vous dites.
Exactement.
Ben merci beaucoup, docteur François Marquis. On se reparlera très prochainement, bien sûr. On aime bien faire le point avec le doc Marquis, comme on vient de le faire. Tous ceux qui ont des masques, des gants, du matériel médical, écrivez-moi, isabelle@985fm.ca. Si on peut le passer au gouvernement, on va le faire, c'est sûr. Ça, au moins, je trouve qu'on avance. Là. C'est productif. On se retrouve après les nouvelles.